propose de commencer. Je vous souhaite la bienvenue aux ateliers du CESPRA. Ah, vous avez les derniers arrivés. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Olivier Roy, professeur à l'Institut universitaire européen à Florence, mais détaché de l'École des hautes études, rattaché au CETOBAC, au Centre d'études turques et ottomanes, qui va nous parler aujourd'hui d'un thème qui ne manque pas de faire l'actualité, la violence de l'État islamique, de Daesh, avec un titre qui nous laisse un petit peu dans l'intrigue, plus ou moins, « Violence contemporaine, violence à l'ancienne, Daesh comme modèle satien ». Sans plus tarder, je vais passer la parole à Olivier Roy, étant donné que notre séance aujourd'hui est raccourcie d'une trentaine de minutes. Il faut s'arrêter à midi, donc voilà. Merci beaucoup d'être là.
Merci, merci Cynthia. Ce que je vais dire, c'est « work in progress hein, ». C'est pas du tout un résultat d'un travail achevé. C'est justement l'intérêt de ce genre de séminaire, quoi. C'est de parler des choses sur lesquelles on est en train de travailler et de les tester un petit peu. Voilà, on va voir si ça passe le public ou pas. Puis on se retire si ça passe pas. Quoique les éditeurs, ils prendraient bien un titre pareil. Il y a des choses qui sont frappantes dans la violence exercée par Daesh. Il faut être clair. Dans toute guerre, il y a des violences. Dans toute guerre, il y a des viols. Dans toute guerre, il y a des massacres, des exécutions, etc. Il y a du sadisme. Bon. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas de spécificité. Et on pourrait toujours trouver, dans certaines formes de la violence de Daesh, des antécédents historiques, en particulier dans les guerres de religion, par exemple. Hein. Là, je me réfère aux ouvrages d'Olivier Christin hein, sur la question de la ritualisation de la violence dans les guerres de religion en France. Mais quand même, il y a un certain nombre de caractéristiques frappantes dans la violence qu'ils exercent. D'abord, elle est ritualisée. Il y a une mise en scène, elle est scénarisée même. Il y a une mise en scène qui peut varier selon les cas. Il y a un discours derrière, il y a une technique de filmage, il y a des techniques de communication, c'est-à-dire que la vidéo circule. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, hein. Il y a des antécédents, mais ces antécédents, justement, pour moi, sont des marqueurs d'une certaine généalogie. L'exécution ritualisée, Al-Qaïda l'a pratiquée. Al-Qaïda a exécuté des otages, justement, en Irak du Nord. Hein, donc là, il y a une continuité. En 2004-2005, selon un scénario aussi très au point, c'était une parodie, c'était un seul plan. Vous aviez la bande des juges exécuteurs, donc 4-5 types, les visages masqués. Vous aviez au-dessus la banderole de l'organisation. Vous aviez l'otage à genoux, la lecture de la sentence et l'otage est exécuté. Bon. Ce type de scénario, on le trouve, à ma connaissance, pour les premières fois, dans les mouvements d'extrême gauche des années 70. Hein, l'exécution d'Aldo Moro, par exemple, par les Brigades Rouges. Italienne, c'est exactement la même scénarisation, sauf que bien sûr le slogan sur le bandeau n'est pas le même. Mais la mise en scène est la même, et le scénario est le même, la lecture d'une sentence et l'exécution d'un otage. Donc on est là dans des mises en scène qui sont très modernes. Et on trouverait certainement des précurseurs dans un groupe précédent d'Amérique latine, des choses comme ça. Hein. Il y a toute une généalogie ici qui est à faire, mais qui est justement du 20e siècle. Ce ne sont pas des mises en scène de type saoudienne où on se réclame d'une certaine tradition, évidemment, qui est réinventée. Islamiques, elles sont transversales, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans des... elles ont été inaugurées par des mouvements contemporains non-islamistes. Donc l'extrême gauche dans le cas de l'exécution, mais par exemple pour les décapitations telles qu'elles sont faites, on trouve des vidéos qui ont précédé celle de Daesh, et c'est des narcos mexicains. Si vous prenez, vous regardez Blog del Narcos, c'est un blog qui met en ligne sans commentaire des vidéos tournées par les narcos eux-mêmes. Et on trouve exactement, donc ça date de 2004, 2005, 2006, les techniques, non seulement les techniques de décapitation, de démembrement des corps, mais les mises en scène, hein, avec pareil, les otages à genoux, les exécuteurs derrière, le discours, parfois un interview de l'otage avant qu'il soit exécuté, hein, et ensuite le démembrement du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont importé ça, c'est-à-dire qu'ils les ont vus, et qu'ils se sont dit, ouais, c'est chouette, on va faire pareil, etc. Ou bien est-ce que ça veut dire que c'est dans l'air du temps, ou bien qu'il y a des intermédiaires autres, par exemple dans des jeux vidéo, etc. Mais il y a un réservoir de modèles de violence qui est réutilisé par Daesh. Autre caractéristique, et là j'en viens à Assad, hein. La violence est perpétuée par un petit groupe d'élite. Ce n'est pas une violence populaire, par exemple. Hein. Les combattants de Daesh ont un statut de héros exceptionnels. Par exemple, bon, on sait qu'ils sont logés dans des grands hôtels, ce qu'ils ont pu récupérer comme grands hôtels, qu'ils ont des privilèges en termes de salaire, en termes sexuels, on en reparlera, qu'ils vivent entre eux. Qu'ils ont accès, bon, paradoxalement, au confort, hein, nourriture, maison, voiture, etc. Donc on a une espèce d'élite qui vit entre elles et à qui tout est permis, mais selon une règle. Et là, je crois que c'est ça, le modèle sadien. Je reprends le film, dont beaucoup d'entre eux ont été vus par beaucoup d'entre eux, Salaud, hein, les 120 journées de Sodome et Gomorre, revues par Pasolini. Eh bien, moi, j'ai été frappé, justement, par les analogies. Vous avez un groupe qui est enfermé dans un endroit, qui est absolument tout puissant, qui a droit de vie et de mort, de jouissance sexuelle sur tout le monde, qui ne dépend d'aucune autorité extérieure, et une population d'esclaves, hein, bon, Daesh par exemple, c'est les Yézidis, hein, qui n'ont aucun droit, qui peuvent être violés, tués ou torturés à la, selon le bon vouloir du groupe dominant, mais le groupe dominant ne peut tuer que selon une règle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une violence sauvage, ce n'est pas du tout la violence du soudard, si vous voulez, du commando qui prend une ville, qui prend un village, qui viole et qui tue. La violence est ritualisée, elle est collective, on la fait entre soi, on n'a pas le droit de faire son petit truc dans son coin, hein. Et elle doit être faite selon des règles, donc le faux jugement, par exemple, le faux tribunal, mais aussi le faux mariage pour le viol, hein. Scène de mariage, de faux mariage qu'on a aussi dans Salo, hein. Dans Sodome et Gomorre, parodie du mariage, hein. Répartition des victimes sexuelles entre soi, hein. On va échanger les prisonnières. Mais là aussi, on le fait selon une règle. Hein. Par exemple, alors ça, on retrouvera ça dans d'autres groupes, ce schéma-là. On en épouse une, on la divorce, j'allais dire, mais on prononce le talak. Hein. À ce moment-là, elle est prise par l'autre, hein, puis par l'autre, etc. Avec chaque fois un faux rituel de mariage, parce qu'évidemment, le mariage en question n'est pas fait selon les règles chariatiques. Mais ils utilisent la référence à la charia. C'est-à-dire que vous avez une forme, en gros, c'est ça ma thèse, si vous voulez, de violence qui est très moderne, dans la conception de la violence, dans la mise en scène de la violence, dans la propagation de la violence, enfin des vidéos de violence, etc., dans l'usage des médias et des moyens de communication sociale, c'est très moderne. Mais cette violence, on va la réguler au nom d'une loi, d'une norme qui, elle, se réclame de la charia. Donc on a un référentiel islamique qu'on juxtapose et qui sert en quelque sorte, je dirais, à organiser la violence, mais aussi la décupler. Je vais prendre d'autres. Bon, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est la transversalité, c'est-à-dire de voir que ces formes de violence, on les trouve ailleurs, mais aussi ces formes de jeu sur la norme, on les trouve ailleurs. Un autre exemple, par exemple, dans des groupes islamistes, la bande de copains qui s'intermarient. C'est un cas très, très fréquent, la bande à Bégal, le groupe de Hofstadt avec Bouyeri en Hollande. Hein. Ça renvoie aussi au rôle des femmes dans les mouvements, dans les groupes radicaux aujourd'hui, où elles jouent un rôle qui a été occulté pendant longtemps, beaucoup plus important. Et alors, on a ce même jeu avec la norme islamique. Par exemple, dans le groupe de Bouyeri, presque chaque membre du groupe, si je peux dire, a épousé à un moment donné une des filles du groupe. Mais pareil, il y avait des divorces. Donc le garçon prononce trois fois le talak, qui fait que son ex-copine devient alors disponible pour son copain. Donc on a une promiscuité sexuelle qu'on avait dans la bande à Bader, par exemple, mais cette fois qui va se faire au nom d'une norme islamique, entre guillemets, parce que, évidemment, c'est pas le modèle classique de la charia. En particulier, il n'y a pas les trois mois de vacuité après le divorce qui est exigé dans la charia. Mais on ne peut, si vous voulez, tuer ou jouir que dans le cadre du groupe, du collectif, du public et de la règle. Mais pas l'acte individuel. Par exemple, dans Daesh, on a des vidéos d'exécution de membres du groupe qui sont exécutés pour avoir transgressé la loi du groupe. Et alors, ce n'est pas du tout parce qu'ils ont été plus sadiques ou plus violents que les autres, c'est parce qu'ils ont exercé leur violence en dehors du groupe. Qu'ils ont violé une fille, mais pas dans le rituel prévu. Qu'ils ont tué quelqu'un, mais pas dans le rituel prévu. Et on a exactement ça dans Salo, dans le film. Vous avez un jeune militant fasciste qui passe une nuit avec une esclave, entre guillemets, mais sans le faire devant les autres et sans le dire, sans que ça soit inscrit dans les scénarios de répartition et d'échange qui norment le groupe. Et il est exécuté par les autres. Et c'est frappant, quand même, comme analogie. Dans les références dans les scènes de violence, donc vous avez les références politiques que j'ai indiquées plus tôt, plus haut, hein, les narcos, les brigades rouges, mais vous avez aussi une fascination pour ce qui circule dans les films et les jeux vidéo, qui est explicite, là, parce que, le FBI avait sorti un tweet, ou un mail, je crois, d'un jeune Américain qui avait été rejoint Daesh et qui écrivait à ses copains « Venez, c'est Call of Duty en vrai. » Et je crois que cette dimension est très importante. On a des... Je ne veux pas reprendre le truc « Les jeux vidéo pourrissent la jeunesse, etc. » Bon, c'est pas... on ne devient pas violent parce qu'on regarde des jeux vidéo, mais on emprunte aux jeux vidéo des paradigmes de violence. Et je dirais, je me demande si ce n'est pas inversement. Il y a une circulation, parce que si vous voulez, toutes ces scènes de violence, quand elles circulent sur Internet, elles sont égalisées, elles sont décontextualisées. On n'est plus dans un processus historique ou géostratégique, le rôle de Daesh par rapport à l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Non, ça n'existe pas. Hein. On a des paradigmes, des séquences, je dirais, de violence qui sont coupées de leur contexte et qui circulent librement et qui peuvent être contextualisées au goût de chacun. Un exemple, il y a deux jours, j'ai lu ça, je ne sais pas, dans une épanade dans The Guardian. Vous savez, il y a ces jeux vidéo collectifs, c'est-à-dire on joue par Internet entre soi sur un jeu qu'on construit ou on... c'est ça par les enfants, hein, moi je... Et alors là, il y a un de ces jeux-là, j'ai oublié son nom, il y a un joueur qui a triché, qui a introduit un personnage qui n'était pas prévu, qui lui a fait faire des choses qui n'étaient pas prévues. Alors, les autres joueurs se sont alors concertés. Et dans le jeu, ils ont capturé le personnage introduit par le tricheur, et ils l'ont exécuté en le faisant, en le lançant du haut d'un toit. Ce qui est exactement ce que Daesh fait avec, par exemple, les homosexuels. Vous avez dans des vidéos de Daesh où on voit un type attaché qui est monté en haut d'un bâtiment, en général en ruine, par trois gars, et on le jette et il s'écrase en bas. Dans cette vidéo qui circule, je veux dire, on ne sait pas forcément que le gars était un homosexuel, qu'il était condamné pour homosexualité. Voilà, on voit l'exécution par plongeant dans le vide d'un prisonnier. Eh bien, les gars du jeu vidéo ont repris exactement le même scénario. Pour rire. C'est-à-dire qu'on a un effet là de déréalisation totale. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et là aussi, dans cette histoire du jeu vidéo il y a deux jours, vous avez le même principe. On joue collectivement, c'est un jeu violent, mais on doit suivre la règle. C'est-à-dire que, et c'est ça le modèle sadien, c'est la liberté absolue selon une règle absolue. Vous pouvez faire tout, c'est-à-dire tuer, violer, en gros. Tout, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes tout puissant, mais il faut, cette toute puissance ne peut s'exercer que dans le cadre d'une règle absolue. Et cette règle absolue, chez Daesh, on l'appelle charia. Mais le rapport, je dirais, entre la violence et la règle n'a évidemment rien de juridique, enfin au sens traditionnel de la charia. Et cette analyse que je fais peut contribuer à expliquer en fait la fascination qu'exerce Daesh. Vous savez que, d'après la police française, 22% des jeunes Français qui rejoignent Daesh sont des convertis. C'est un pourcentage énorme, 22%. Vous n'avez aucune organisation, sauf Al-Qaïda, mais pour moi c'est la même généalogie, aucune organisation islamique ne fait, je dirais, 1% de convertis. Hein. Très souvent, on veut établir une continuité, hein, c'est le grand thème, disons, du thème de menace islamique. On veut établir une continuité entre les formes de politisation et de violence liées à l'islam. Par exemple, l'idée que Daesh, Al-Qaïda, ce sont dans le fond les rejetons des frères musulmans, de Saïd Qroub, etc. Or, indépendamment de tas de différences, il y a une différence qui est fondamentale. Chez les frères musulmans, vous n'avez pratiquement pas de convertis. Dans la révolution islamique d'Iran, il n'y a pas de convertis. À Daesh, il y a 22% de convertis. C'est énorme. Et là, on a un saut qualitatif. Je veux dire, ce n'est pas qu'il y a plus de convertis à Daesh qu'ailleurs. C'est que la conversion, comme mode de recrutement, est centrale chez Daesh. Autre chiffre donné plus récemment par la police française, quand ils font des recherches sur Internet pour voir qui adhère, mais sur Internet, virtuellement. Hein, là, on ne parle pas des gens qui sont allés en Syrie. On parle des gens qui expriment leur intention sur leur page Facebook, ou dans des tweets, ou dans des sites web, leur intention d'aller en Syrie rejoindre Daesh. Eh bien, 40% des moins de 24 ans sont des convertis. C'est-à-dire que le phénomène de conversion augmente, dans le sens où il y a plus de convertis chez les plus jeunes. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se convertissent. Parce que s'il y avait 40% de convertis chez les jeunes il y a 20 ans, on les retrouverait chez les adultes. On ne les retrouve pas. Hein. Le phénomène de conversion, il a commencé à Al-Qaïda et Daesh en 1995. Hein. En gros, jusqu'en 1995, les volontaires, les djihadistes internationaux, venaient de pays musulmans, étaient d'origine musulmane. Mais dès 1995, on voit un saut du nombre des convertis, qui n'a pas été perçu pendant près de 20 ans. C'est ça qui est extraordinaire, c'est seulement maintenant qu'on vous parle des convertis. Donc tout le monde a l'impression que d'un seul coup, des centaines de jeunes Français se convertissent au djihadisme. Mais c'était vrai il y a 20 ans. Le groupe Begal, typiquement, c'était un tiers de convertis. Le groupe Hofstad, Bouyeri, ceux qui ont assassiné Théo Van Gogh, pareil, un tiers de convertis. Et ça n'a jamais été vu je me rappelle d'une conversation, enfin, pas vraiment une conversation parce qu'avec lui on ne converse pas, mais d'un échange avec le juge Bruguière que j'ai eu en 2004, quand j'ai posé la question des convertis. Il a dit non, non, les convertis, c'est sans intérêt. Les convertis, ce sont des petites blondes qui se font draguer pour passer les checkings de sécurité. Bon, non, on voit bien que ce n'est pas ça. Donc pour lui, c'était des marginaux. Or maintenant, ils sont, pas majoritaires, mais ils sont essentiels dans le recrutement d'Al-Qaïda et de Daesh. Et ça pose le problème de la motivation des jeunes qui vont là. On a cherché, par exemple, des tas d'explications de type sociologique, des jeunes musulmans de seconde génération, déculturés, qui sont motivés par les souffrances de la Oumma musulmane dans le monde entier, en particulier du peuple palestinien, etc., et qui se radicalisent dans un contexte un petit peu post-colonial, etc. Ça ne colle pas du tout avec le profil des recrutés. On ne voit pas pourquoi quelqu'un se convertirait à l'islam parce qu'il serait sensibilisé aux souffrances des gens du Moyen-Orient. La trajectoire de la conversion est une trajectoire beaucoup plus individuelle, très individuelle, et qui se fait en général dans le cadre d'un petit groupe. Hein. On retrouve toujours cet élément du petit groupe. Petit groupe de copains d'un quartier, par exemple, groupe de gens qui se retrouvent en prison, ça c'est un schéma très très classique, comme les frères, deux frères qui ont tué les gens de Charlie Hebdo, Kouachi, voilà. Et quand c'est une collection d'individus, par exemple des gars qui se retrouvent en prison, ils reconstituent, quand ils sont en liberté, un groupe quasiment familial, en particulier par l'intermariage, par le fait de partager les mêmes filles, mais qui sont ici, dans le groupe, sur un pied d'égalité, qui ne sont pas du tout comme les esclaves sexuels qu'on prend en Syrie. Donc on a, j'allais dire, plusieurs modèles d'adhésion. Je ne veux pas dire que ce modèle de la violence est la raison d'adhésion. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est une partie de ceux qui rejoignent Daesh, c'est un élément essentiel. Cette fascination par la violence, ces Call of Duty en vrai, jouent un rôle énorme. Et on le voit dans la transformation, si vous voulez, du petit minable, ou du gars qui se vit comme un loser, le cas de beaucoup de convertis, et qui d'un seul coup devient un super-héros. Si vous regardez, par exemple, les vidéos où on montre, en général, c'est des vidéos sur ceux qui sont morts. Hein, et donc, on a donc tourné avant qu'ils meurent, une vidéo sur eux. Hein, et en général, où il y a pas une confession, d'ailleurs, c'est pas une confession, où le type annonce qu'il est prêt à mourir, qu'il va mourir, etc., appelle sa famille à se convertir, appelle les autres à rejoindre le djihad, etc., etc. Et dans ces mise en scène du héros, il y a un élément esthétique très fort. Le gars est beau. Je pense, par exemple, c'est les vidéos du jeune Normand qui s'est converti. Alors, on a deux récits, évidemment, complètement opposés. Les gens du village disent « Oh, mais il était timide, il parlait à personne, il était gentil. Hein, » Il était gentil. Hein. Bon. Donc, on peut se dire, le gars, ben, il en avait marre d'être gentil. J'ai déjà été à l'école ou je ne sais pas quoi. Bon. Et après, on a la vidéo, lui, en Syrie. Et là, il a une espèce de barbe rouge de viking. Il a un turban noir, un uniforme noir. Il est debout sur un 4x4, un Kalachnikov à la main, l'autre main sur une mitrailleuse lourde. Hein, et il charge. Hein. C'est la charge dans le désert, la charge de cavalerie. Hein. Et c'est très beau. Dans son village, je suis sûr qu'il y aurait une ou deux filles qui disent « Ah, bon », en regardant. Donc on a une espèce de mutation du brave gars indistinct au super-héros dont on oublie, on se rappellera le nom parce qu'il a tué. Parce que ces gars-là savent qu'ils vont mourir. Et là, on a un modèle de fascination pour la violence suicide, qui n'est pas partagée par tous, encore une fois, il ne faut pas exagérer, mais qu'on trouve en transversal, qui est le phénomène Columbine. Le jeune qui retourne dans son école et qui mitraille ses profs et ses anciens copains. Bon, c'est un phénomène de masse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques fous, etc. Il y a un Columbine par mois aux États-Unis. À tel point d'ailleurs que maintenant, ça ne fait plus la une du tout. C'est traité à la page fait divers. Parce que c'est traité comme une. C'est perçu comme une succession de cas séparés, pas du tout comme un phénomène social, mais comme une succession de faits divers, une addition de faits divers. Bon, évidemment, si chacun de ces gars-là criait Allah Akbar avant de faire leur truc, là, ça ne serait plus une succession de faits divers, ça serait un phénomène de radicalisme islamique. Mais la mise en scène est très proche. Les types annoncent qu'ils vont faire sur Internet. Se mettent en scène dans des postures militaires héroïques avant de faire l'action. Par exemple, ce film en train de tirer, ou en train de poser avec des armes, ou dans un environnement d'images, de photos, de guerre. Ils laissent entendre, ou ils annoncent carrément sur Internet ce qu'ils vont faire, ou ils envoient une vidéo qui sera reçue par les gens après. Ils se filment, soit avec une GoPro, soit avec d'autres moyens quand ils font leur action terroriste, enfin leur attaque, et ils meurent. Soit ils se suicident, soit ils sont tués par la police. C'est exactement Koulibaly dans le magasin cachère. Il n'a jamais essayé à aucun moment de s'échapper. C'est pas le problème. Il n'a jamais essayé de prendre un otage pour fuir. Par contre, ce qu'il voulait être sûr, c'est que les télés soient là. Donc on appelle les télés, on répond à des interviews, on fait des déclarations aux gens qu'on va tuer, on leur explique pourquoi on va les tuer, et puis à la fin, on se laisse tuer, parce qu'on sait qu'on sera tué, parce que ça y est, on a atteint son but, terminé en super-héros négatif. Donc on comprend mieux comment, disons, la scénarisation de type Daesh peut attirer des jeunes qui sont dans ce fantasme de super-héros négatif. Parce que là, vous êtes sûr, à partir du moment où c'est fait au nom de Daesh, vous êtes sûr de faire la une des journaux. Je pense que le pilote de Germaine Wind, là, qui a crashé son avion, s'il avait prononcé Allah Akbar avant de crasher son avion, ça aurait complètement changé la mise en scène. Il n'y a pas pensé, probablement parce qu'il était raciste. Il n'y a pas pensé. Mais on a cette même fascination pour le suicide où on entraîne les autres et on est sûr de faire la une, être célèbre. Ça pour dire, c'est que les motivations des jeunes peuvent être complexes. Il n'y a pas que ça, encore une fois, dans les jeunes qui vont chez Daesh. Mais que Daesh a réussi justement à offrir une scénarisation qui vous garantit le succès médiatique, qui vous garantit l'impact. Si on cherche d'autres motivations de type politique ou autre chez les jeunes qui rejoignent Daesh, vous avez là, chez une minorité, le millénarisme, c'est-à-dire l'idée que voilà, c'est une société juste, etc. Ça concerne plutôt ceux qui partent en famille et qui vont là-bas pour en annonçant qu'ils vont vivre dans une société juste, etc. Alors en général, ceux-là sont plutôt déçus. Mais vous avez aussi ceux qui entraînent, et ça c'est très enfin, intéressant, c'est terrible, mais intéressant, qui vont entraîner leur famille dans ce délire suicidaire et mortifère. On a deux cas. On a la vidéo où un père fait tuer, alors on ne sait pas trop si c'est du montage ou si c'est une vraie scène, mais fait tuer un prisonnier par son fils de 11 ans. Donc c'était il y a 2-3 mois. Et là, on vient de voir bon, les premières naissances chez Daesh, le nourrisson avec entre deux revolvers. Et son avenir, annoncé par les heureux parents, c'est voilà, on a donné naissance à un petit djihadiste qui deviendra un grand martyr. Bon. Donc on a cette conjonction entre le groupe, ici, qui peut être familial, et le suicide collectif. qui est là quelque chose qu'on a dans les sectes. Je pense au secte québécoise là, du c'est pas le temple solaire, hein, ou Jones. Hein. Et il y a un mélange, bon, mais qui est assez classique là aussi, entre millénarisme utopique et suicide. L'imaginaire, si vous voulez, politique de Daesh, c'est le califat. C'est-à-dire, on repart à zéro. Le califat s'est établi sur une société de l'ignorance. Hein. Le refus de se convertir montre qu'on refuse de quitter l'ignorance, donc on est tué. Il n'y a pas de reconnaissance chez Daesh, qui est classique, même chez les talibans, par exemple, la reconnaissance des gens du livre, des chrétiens, hein, que les talibans reconnaissent. Hein. Les talibans n'ont touché à aucun lieu de culte en Afghanistan, à condition qu'il y ait des fidèles dedans. Donc, quand ils ont fait sauter les Bouddhas, ils ont dit, alors c'est pas la raison pour laquelle ils l'ont fait sauter, mais l'argumentation après pour réinsérer la destruction des Bouddhas dans un discours légaliste musulman, c'est de dire, il n'y a pas de bouddhistes. Donc, on ne s'attaque pas à une religion, on s'attaque à des idoles culturelles. Par contre, ils n'ont pas touché au temple hindou de Kaboul, à la synagogue et au temple sikh, parce que ces trois lieux de culte avaient des fidèles. Bon. Ça, ce n'est pas le point de vue de Daesh. Daesh détruit. Daesh est dans une vision complètement millénariste, c'est-à-dire, pour recréer l'âge d'or, il faut tout détruire. C'est une vision Khmer Rouge, c'est une vision révolution culturelle chinoise. Et comme très souvent, ces utopies sont accompagnées, disons, de pulsions mortifères et suicidaires, parce que par définition, ça ne marche pas. On ne crée pas une société juste, comme ça, de rien. Donc ça, cette relation entre millénarisme et meurtre de masse, suicide, elle n'est pas propre à Daesh du tout. Ce qui est propre à Daesh, c'est cette mise en scène de la violence, à partir d'une culture moderne de la violence. Encore une fois, je ne veux pas incriminer les jeux vidéo, bon, tenir le jeu de discours réactionnaire, mais on a bien une circulation d'une violence moderne qu'on voit dans les films américains. La violence, si vous voulez, sur 20 ans, 30 ans, il y a deux phénomènes, sur 30 ans, il y a deux phénomènes qui sont intéressants. Il y a de moins en moins de sexe explicite, et de plus en plus de violences gore. Pensez au film Scarface, par exemple, de Brian De Palma, qui a été un très gros succès dans les banlieues françaises. Ça a étonné les patrons de cinéma. Pensez à la série Highlanders, où on décapite, hein, la victoire sur l'ennemi, enfin l'annihilation de l'ennemi, c'est la décapitation. Il y a en ce moment, c'est très controversé, dans Game of Thrones, justement, une banalisation là aussi de la décapitation. Et on peut se demander dans quel sens ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire si dans le fond, comme je disais tout à l'heure pour les jeux vidéo, il n'y a pas une espèce de reproduction réciproque entre le réel et le virtuel là-dessus. Et ça pose évidemment tout le problème, qu'est-ce que c'est que. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un terme comme culture de la violence, hein, comme sous-culture jeune, hein, comment repenser les rapports virtuels réels, et pour moi, Daesh, on est dans le virtuel. Bien entendu, c'est un effet de réel, parce qu'ils se sont emparés d'un territoire. Mais tout leur fonctionnement interne est de l'ordre du virtuel. La preuve, et ça, c'est très discuté entre experts qui travaillent sur Daesh, mais c'est le rôle essentiel que jouent justement les étrangers, et en particulier parmi les étrangers, les convertis, ceux qui ne sont pas dans la société. Alors, il y a quelques observateurs qui disent que c'est une illusion d'optique, que Daesh a une base locale très forte, avec des anciens personnes du Baas, qu'ils ont un mode de gestion de la société civile et que les étrangers, etc., sont là pour se faire tuer en première ligne, en gros, hein, pour faire des vagues d'assaut, et pour entretenir la mise en scène de Daesh, mais que c'est complètement décalé par rapport à la véritable gestion d'une population. Et puis, il y en a d'autres qui disent, pas du tout, la gestion de la population est très pauvre. Daesh ne fait qu'assurer un certain nombre de choses, un certain approvisionnement, par exemple, une certaine justice expéditive, etc., mais que l'essentiel des ressources de Daesh va à cette légion étrangère, qui ont ce statut d'élus. Les seuls qui ont droit, effectivement, qui ont droit de vie et de mort absolue et droit à la jouissance sexuelle débridée. Un des problèmes, mais qu'on retrouve également chez Boko Haram, et là il y aurait des comparaisons à faire, mais je n'ai pas assez d'informations. C'est précisément, quand vous êtes dans une utopie comme ça, comment constituer une société réelle ? C'est tout le problème des utopies. Et une société réelle se constitue à partir d'une base familiale. Ça vous dit bien faire des enfants. Vous ne pouvez pas rester des templiers. D'autre part, dans des sociétés très conservatrices, et musulmanes en particulier, la présence de milliers de jeunes célibataires est un élément déstabilisant. En particulier, dans le nord de l'Irak et en Syrie, dans des populations qui sont très tribalisées, et où on se marie selon des règles, mais qui ne sont pas des règles coraniques, hein, qui sont des règles anthropologiques. On ne se marie pas avec n'importe qui. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Donc le premier truc, c'est d'enlever les femmes, hein, c'est-à-dire de déclarer une catégorie de femmes, de les déclarer accessibles sans condition. Les hérétiques, donc les yézidis, éventuellement les chrétiens, les prisonniers de guerre, ou les familles d'ennemis, etc. Ça avait déjà commencé en Afghanistan avec les volontaires arabes dans la fin des années 80, où les femmes dans les familles communistes étaient déclarées bien publiques, qu'elles pouvaient être prises comme esclaves, concubines, etc. Donc il y a cette manière, si vous voulez, de dissocier en gros la société réelle, entre guillemets, qui fonctionne selon ses règles anthropologiques, et puis une population qui, elle, n'a pas droit au statut de société réelle et qui est là pour être tuée ou transformée en esclave, en particulier en esclave sexuel, ce qui permet de stabiliser justement ces jeunes célibataires qui sont une menace pour la société traditionnelle. Hein, donc une espèce de gestion où on joue sur les deux niveaux, un relatif respect des sociétés traditionnelles et l'utopie de la société des purs. Pourquoi on est obligé de rester sur ces deux niveaux ? Parce qu'on n'arrive pas à transformer la société réelle. C'est tout l'enjeu de ces mouvements-là. Les sociétés réelles fonctionnent, que ce soit dans le nord Nigeria ou en Syrie, et ça, sur, encore une fois, des règles anthropologiques, très souvent de type tribal. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on les déclare haram, on dit voilà, l'islam, c'est pas ça. Donc vous devez maintenant suivre nos nouvelles règles. Mais là, on se coupe de la population locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on se coupe de la population locale ? Le seul moyen de régner, c'est la terreur. Parce qu'à un moment donné, la population locale, qui a pu accepter la présence du groupe millénariste pour d'autres raisons, va se retourner contre lui. C'est tout l'enjeu, et de Boko Haram et de Daesh. Ils ne s'effondreront que de l'intérieur. Parce qu'il n'y aura pas de l'extérieur un groupe suffisamment fort pour reconquérir le territoire. Pour qu'un groupe extérieur puisse reconquérir le territoire, il faut que l'émirat utopique soit en crise structurelle. Et la crise structurelle, c'est l'opposition entre le groupe des purs, qui a droit à tout, et la population locale, qui d'un seul coup se voit menacée, non pas forcément physiquement, mais dans son mode de vie. D'où l'importance des questions matrimoniales. Il y a un gros effort fait par Daesh, ça on le sait, pour convaincre les populations locales de donner leurs filles aux djihadistes. Alors, pas comme esclaves, là, hein, mais avec le statut d'épouse. Et évidemment, quand on est un petit notable tribal du nord de l'Irak, donner sa fille comme épouse à un jeune de Villeurbanne qui ne parle même pas l'arabe, c'est considéré plutôt comme une offense. Hein. Donc c'est très mal vu. Hein. Et on sait qu'il y a des révoltes. Donc ils sont obligés de jouer sur un double registre. Un registre de gestion des sociétés locales et ce registre de l'utopie où tout est permis. D'où, j'allais dire, le fait qu'on vive l'utopie dans le virtuel, c'est-à-dire dans la vidéo, dans le film, dans la mise en scène. Les gens locaux s'en fichent de toute cette mise en scène. Cette mise en scène a un effet de terreur par rapport à l'extérieur, mais ce n'est pas les vidéos qui jouent sur la population locale. C'est le comportement concret des militants qui jouent sur la population locale. Donc ici, on a un cas très intéressant où une culture de la violence dans le virtuel, où tout est possible, se heurte ou doit s'articuler sur une société réelle qui vit selon ses règles anthropologiques. Et là, je vais terminer là-dessus. Il y a un élément sur lequel, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est du pas de la spéculation, mais c'est un travail en cours de route. Il y a quand même quelque chose qui me frappe depuis un certain temps, ces mouvements utopistes, donc qui sont contre les sociétés traditionnelles, contre l'anthropologie dominante, etc., s'enracinent toujours dans les zones tribales. Et ça, c'est bizarre. On a tendance à penser que les sociétés tribales sont justement les plus conservatrices et celles qui seraient le plus réactives, you know. Vous savez, contre ces utopies de jeunes déracinés qui ignorent précisément la société réelle. Or, Taliban, Yémen, Irak du Nord, Boko Haram, Mali, ça fait beaucoup. Hein. Et alors, il y a une explication, c'est de dire, ben oui, ils vont dans les zones désertiques, à l'écart, etc. Bon, le nord de l'Irak, c'est pas tellement... zone désertique, enfin, il y a du désert, mais il y a des villes. Et puis le phénomène est trop récurrent pour ne pas être corrélé, quoi. Moi, j'ai vu ça chez les talibans il y a 20 ans. Les talibans sont... alors, ils n'ont pas la violence de Daesh, hein, pas du tout, ni de Boko Haram, il ne faut pas les confondre. Les talibans restent dans un registre chariatique traditionnel et pas dans cette espèce de reconstruction de la règle comme moyen de cohésion du groupe des purs. Hein. Et les talibans ne sont pas des suicidaires. En tout cas, les talibans mainstream ne sont pas dans une logique... C'est pas eux qui ont mis en avant l'attentat suicide, etc. C'est les gars de l'Al-Qaïda qui sont venus s'installer chez les talibans. Mais enfin... ces groupes ultra-radicaux, donc Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, ont pris racine dans des zones tribales. Et alors, ça pose le problème de l'articulation entre les deux. La tension, bon, ça c'est clair, on la voit, mais deux, pourquoi ça a marché au début ? Bon, on a des explications politiques concrètes pour l'Afghanistan et pour Syrie-Irak. C'est-à-dire, tant en Afghanistan qu'en Syrie-Irak, on a un groupe, les Pashtuns en Afghanistan et les Arabes sunnites en Syrie-Irak, qui a été le perdant des recompositions géostratégiques des 30 dernières années. Le départ des soviétiques d'Afghanistan s'est traduit, 3 ans après, en 92, par la prise du pouvoir à Kaboul par les non-Pashtuns. Bon, ça s'est très mal passé. Mais les Pashtuns ont toujours considéré que l'Afghanistan, c'était leur création, et ont très mal vécu ça. Et sur le marché à l'époque, bah, il n'y avait que les talibans, dans le fond, pour, articuler une revendication qui était fondamentalement ethnique, mais avec un discours universaliste qui leur permettait de se présenter comme des gens qui allaient rétablir la loi et l'ordre, et rétablir un ordre islamique en Afghanistan. On a quelque chose d'assez proche avec Syrie-Irak. On a une population arabe sunnite qui, après, même chose, c'est une série d'événements de type géostratégique, s'est retrouvé d'un seul coup privé du pouvoir politique. Il faut, bien voir que si on regarde depuis la chute de l'Empire ottoman, tout l'arc, donc Palestine, Liban, Syrie, Irak, donc qui sont les vilayats ottomans qui ont été transformés d'abord sous le mandat français et anglais en colonie, ensuite en État indépendant, cet arc-là est majoritairement arabe sunnite. Hein. Et aujourd'hui, après un certain nombre d'événements, la création de l'État d'Israël, la prise du pouvoir par les Alaouites en Syrie, la fin de la guerre civile libanaise, l'intervention militaire américaine en 2003 en Irak, eh bien, il ne reste plus qu'un seul pays, le plus petit, le moins important, à être aujourd'hui dirigé politiquement par des Arabes sunnites, la Jordanie. Tous les autres, Israël-Palestine, évidemment, Liban, c'est une coalition de chiites et de chrétiens qui gère le Liban, la Syrie, c'est des Alaouites, l'Irak, c'est des chiites, et le nouvel État kurde n'est pas arabe. Donc il n'y a plus, si vous voulez, dans une région où les Arabes sunnites sont majoritaires, vous n'avez plus qu'un seul État arabe sunnite, la Jordanie, donc ça crée du ressentiment, et donc on est prêt à accueillir un nouvel acteur qui remet en cause le repartage de fait de l'ancien espace ottoman arabe. Donc, même phénomène qu'en Afghanistan. Sauf que ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas pourquoi ça a dû prendre la forme d'une organisation radicale djihadiste pour que ça marche. Ça n'explique pas les volontaires. Et donc, il faudrait chercher ailleurs, dans des explications plus anthropologiques, sur la crise du système tribal. La crise en particulier des élites tribales qui est évidente en Afghanistan. Donc il y a plusieurs pistes là, mais on a cette articulation qui est quand même fascinante avec Daesh qui avait été préfigurée par Al-Qaïda. C'est l'articulation d'une Oumma virtuelle qui n'existe que dans l'imaginaire de jeunes qui s'autoradicalisent dans le monde entier et qui vont s'articuler sur une société réelle où il y a des enjeux de pouvoir réels, où il y a des questions ethniques, où il y a des questions de contrôle de territoire, etc. Et là, on a quand même quelque chose qui est nouveau. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Il nous reste presque une demi-heure pour la discussion. Étant donné que j'ai souvent l'occasion de discuter avec mon directeur de thèse, je vais peut-être me permettre de raccourcir la discussion en tant que discutante, mais poser peut-être une petite question avant d'ouvrir le débat à la salle. Olivier, vous nous dites quelque part, dans la mesure dans laquelle la modernité de la violence de Daesh n'est pas dans le contenu, mais plutôt dans le langage, dans la forme, dans la structure. Ma question concerne plutôt le fait de la violence parlée versus la violence muette. Vous nous parlez d'un modèle saadien et je me demandais vraiment dans quelle mesure cette violence parlée vient contredire la violence comme chez Foucault, comme chez Bataille, qui est la violence muette, qui est la violence de l'État, le bourreau, le langage du bourreau qui est celui de l'État en fait. Et là, on a l'impression que, comme chez Saad, la violence parlée en devient une non-violence, d'une certaine manière. Est-ce que c'est ça que vous essayez de nous dire ?
Alors que ce n'est pas que c'est une non-violence, parce que c'est de la violence, mais c'est une violence qui ne peut s'inscrire que dans une parole, qui doit être précédée d'une parole, qui doit s'exprimer. Il y a même une rhétorique, puisque, évidente chez Saad. Alors, effectivement, c'est une violence qui marque le corps, je veux dire, d'individus. C'est pas une violence qui reste, contrairement à l'utopie qu'ils mettent en avant, c'est pas une violence qui restructure l'espace social. Elle peut être à la rigueur utilisée pour faire peur, mais on... j'allais dire, c'est un petit peu comme la torture publique au Moyen-Âge. C'est un discours, hein, et ça Foucault l'avait dit aussi, tout autant qu'une violence pure. Et c'est ce que je disais à la fin, c'est-à-dire, bon, il y a un contraste entre justement cette rhétorique de la violence et ce qu'on peut supposer être une résistance anthropologique de la société. Mais la violence ne vise pas la société directement. Elle circule dans un univers, elle circule sur Internet. Et par exemple, ils ne convoquent pas les populations pour assister aux exécutions. Ce n'est pas leur problème. Ils font une vidéo qui circule sur Internet. Donc ça n'a pas, cette violence-là n'a pas comme fonction primaire de faire peur au peuple, d'être un moyen de contrôle de la société. Ça peut être secondairement ça, évidemment, parce que pour s'opposer à Daesh, on sait que les risques sont très très grands. Mais, par exemple, ils utilisent très peu la rhétorique du traître ou du délinquant. C'est la rhétorique de l'hérétique, par exemple, qu'ils vont utiliser, ou du déviant. Ou c'est référé, ou de la vengeance. On se venge. On inflige aux prisonniers la violence supposée qu'il aurait exercée sur les populations civiles. Bon.
Et dans ces cas-là, ça se contredit avec la volonté, on le sait très bien, de Daesh, d'être non pas vraiment pensé comme étant Daesh, mais pensé comme étant l'État islamique. Ça se contredit avec la volonté de s'instaurer comme État.
Je crois qu'il y a un malentendu, cette question d'État. Je crois que pour Daesh, la notion d'État, ça ne renvoie pas à la gestion de la société. C'est le califat, pour eux, le mot important. Nous, on fait une traduction de Daoulat en termes hegeliens, quasiment, ou weberiens plutôt. Hein. Ce n'est pas leur vision. Pour eux, l'État islamique, donc ce qui en fait le califat, est une notion abstraite. C'est une notion territoriale variable. Contrairement à Al-Qaïda, ils territorialisent. Voilà, c'est la grosse différence avec Al-Qaïda. Ils sont très clairs là-dessus. Ils reprochent à Al-Qaïda d'avoir soigneusement évité de se territorialiser. Ce à quoi les gars d'Al-Qaïda répondent, on a bien fait. Enfin, ça faisait partie de notre stratégie. C'est la bonne stratégie. Mais le territoire de Daesh ne se comprend qu'en extension permanente. Et c'est là qu'on est dans la dimension utopique. L'idée, par exemple, que leur territoire correspond anthropologiquement à la présence d'Arabes sunnites n'est pas acceptée comme telle par les gens de Daesh. Hein. Leur but n'est pas de créer un véritable. Par exemple, leur but n'est pas de demander la reconnaissance par la communauté internationale d'un État qui s'appellerait l'État islamique, qui aurait une frontière entre Mossoul et Bagdad, où il y aurait des postes de douane, un passeport de l'État islamique, ça, ils n'en ont rien à foutre de ça. C'est pas du tout comme les Kurdes. Les Kurdes, eux, essaient de créer un État-nation. Les talibans restent dans la logique de l'État-nation. Les talibans afghans ont toujours été très clairs. Ils ont toujours dit, nous, on veut, c'est créer l'émirat islamique d'Afghanistan. Les talibans ont toujours accepté la diplomatie, par exemple. Ont toujours reconnu les diplomates, les ambassades, n'ont jamais attaqué les ambassades, ont toujours envoyé des émissaires négocier. Le Mollah Omar était invisible parce qu'il était l'incarnation du charisme, mais tous les ministres des talibans parlaient aux étrangers. C'était assez facile d'avoir une interview avec un ministre taliban. Donc les talibans restaient dans une conception de l'État weberien, avec les prérogatives d'État. Et d'ailleurs, ils utilisaient cet argument-là. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est pas, pourquoi vous nous parlez de la charia en Afghanistan? On vous emmerde pas avec la charia. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, c'est la charia. Bon. Donc ne nous embêtez pas avec les droits des femmes. Nous, on sait mieux ce qui est bon pour la société afghane, etc. Et d'ailleurs, on a envahi l'Afghanistan en 2001 à cause d'Al-Qaïda, pas à cause des talibans. Et on négocie aujourd'hui avec les talibans. Tandis que Daesh, c'est pas du tout ça. Leur but n'est pas de créer un nouveau pays au Moyen-Orient. Ils sont pas dans « ça explique que c'était pas bien, les frontières étaient mal faites, maintenant on va vous créer le bon État arabe sunnite du Moyen-Orient ». Eux, c'est du Maroc à l'Indonésie. Ils sont dans l'utopie. Encore une fois, tout en ayant un ancrage qui est anthropologiquement déterminé. Il faudrait faire plancher Emmanuel Todd là-dessus, là, il y a tant d'idées, je suis sûr. Donc, pour Daesh, ne pas s'étendre, c'est perdre. D'où, c'est pour ça que la bataille de Kobané, elle ne s'explique que par ça. C'était totalement absurde de la part de Daesh de gaspiller, j'allais dire, tant de troupes pour un bout de terrain qui était vide. Mais c'est parce que cette idée-là, l'idée forte, c'est que on n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. Est-ce qu'ils vont maintenant sauter dans la déterritorialisation à la Al-Qaïda, c'est-à-dire avoir une présence d'État islamique par attentat interposé, si je peux dire? J'en suis même pas sûr. Hein. Ils revendiquent tout attentat qui a lieu à droite et à gauche, mais ça, c'est de bonne guerre. Hein. Mais je ne crois pas qu'ils sont dans une stratégie de déstabilisation de l'Occident par des attentats qui était la stratégie d'Al-Qaïda. Je crois qu'ils se perçoivent toujours comme une extension territoriale. Et ça va leur poser un problème à un moment donné. Il va falloir repenser ça.
Alors, je donne la parole à ceux qui souhaitent poser une question. J'en passe en Linde, puis Olivier Remaud. Merci.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut juste parler un petit peu plus fort?
Oui, j'ai deux questions, pardon. Une relative à ce que vous venez de dire sur la question du territoire. Effectivement, il y a quand même une spécificité de Daesh sur l'ancrage territorial. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a sans doute pas quelque chose comme un État-nation qui est en train de se former là-bas, mais disons, une extension territoriale qui n'a pas de limite, ça s'apparenterait plutôt à quelque chose, disons, de l'ordre de l'Empire, de la volonté de construire quelque chose qui en tout cas domine à la fois territorialement et sur les esprits. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez par rapport à cette forme politique qui n'est pas l'État-nation, mais qui a quand même quelque chose qui relève de la politique. Et la deuxième question, c'était par rapport à la dialectique violence et la violence hypermoderne d'un côté. Effectivement, ça, c'est tout à fait frappant et c'est très clair. Et en même temps, de l'autre côté, cette règle qui s'impose. Et j'étais frappé notamment par ce que vous avez dit sur les faux mariages. La question que je me posais, c'est quand ils organisent ces faux mariages, à un moment donné, ils se rendent bien compte que ce sont des faux mariages, c'est-à-dire que... voilà, et donc, au fond, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que cette règle a une fonction, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une tension qui s'exprime entre, d'un côté, le fait que, bon, l'islam pour eux, c'est quand même une religion, une croyance, et de l'autre, le fait que, manifestement, c'est... cette règle n'en est pas une et c'est qu'un simulacre de règles. Donc voilà, alors que bon, c'est quand même problématique de, je pense, d'établir une règle dont on sait pertinemment que c'est un simulacre et qui n'a simplement vocation qu'à donner l'apparence de la règle alors que ce n'est pas une règle. Voilà.
Moi je pense que si, qu'ils le perçoivent bien comme une règle, mais la règle du groupe. C'est là la référence à Salo. C'est la règle du groupe. Le groupe est sa propre justification, parce que c'est le groupe des purs, c'est le groupe des élus. Et donc on peut totalement mépriser les autres. Mais ça pose un problème, ce que vous dites, et qui est très vrai. Où est la religion? Et je crois que maintenant, j'en arrive à dire que c'est un faux problème. Parce que tout le débat, est-ce que c'est vraiment de la religion, pas de la religion? Alors il y a ceux qui disent tout ça, ben, il n'y a pas de religion, c'est pas l'islam, c'est la violence moderne, c'est des motivations politiques, il n'y a pas d'islam. Il y a ceux qui disent au contraire, c'est un islam exacerbé, voilà ce que ça donne la charia quand on la pousse jusqu'au bout, etc. Et je crois que ça oblige à repenser justement qu'est-ce qu'une religion, quel est le rapport au religieux. Il y a des choses qui... mais là, il y a un problème. Enfin, je donne un exemple. Il y a deux jeunes Portugais, franco-portugais, qui sont des copains et ils rejoignent Daesh ensemble. Ils se convertissent et ils se rejoignent Daesh. Bon. Il y a un journaliste portugais qui m'appelle du Portugal pour me dire bon, il voulait faire un papier là-dessus. Et il m'envoie, alors il avait fait le truc, il a vu le réflexe de faire des captures d'écran des pages Facebook avant que ça disparaisse. Bon. Il m'envoie la page Facebook des deux gars. Et alors c'est sidérant, parce qu'elles n'ont rien à voir. Il y en a un, c'est lui en Ray-Bans à la sortie d'une boîte, dans un concert rock. C'est tout, des références au film, à la musique, jeux vidéo. Voilà, c'est le jeune moderne, pas une référence islamique. et son copain que des citations du Coran, hein, qui l'apprenait par cœur. Ça, bon. Les deux sont partis en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a un qui a vraiment des motivations religieuses et l'autre pas du tout. Et simplement parce qu'il y en a un qui cite le Coran et pas l'autre. Hein. Mais dans ce cas-là, ils ne seraient pas copains. Enfin, bon, on voit mal un qui serait un pur aventurier et l'autre un mystique. Ça ne colle pas non plus. Hein. Et là, je crois qu'il faut essayer de comprendre comment la règle fonctionne chez les jeunes convertis au salafisme. Parce que bon, c'est un vieux truc, ça fait 20 ans qu'on s'en aperçut en travaillant sur les born again et les convertis, leur discussion essentielle est sur la règle, hein, en permanence. Hein. C'est ça qui fait toute la différence avec le reste. Hein. Est-ce qu'il faut utiliser, alors, au mieux, c'est est-ce qu'il faut utiliser sa carte bancaire, etc. Est-ce qu'on peut voter? Après, vous avez, est-ce qu'on peut manger du camembert? Est-ce qu'on peut aller faire une partie de foot avec un non-musulman? Mais si on joue qu'avec des musulmans, est-ce qu'on peut marquer des buts contre un frère? Vous avez des trucs... nous, ça nous faisait rigoler, quoi. C'est plus très rigolo. Et on voit, c'est l'obsession de la règle. Et moi, je crois qu'il y a quelques... Alors, on peut faire des analyses psychologiques, voilà, c'est les paumés, alors ils ont besoin de règles, etc. C'est jamais très satisfaisant, parce que ça reviendrait de faire des formes de radicalisation, un problème psychologique. Or, maintenant, tous les psychiatres sont d'accord. Il n'y a pas de pathologie du radicalisme. Ce n'est pas des jeunes cinglés qui se radicalisent. On peut dire que c'est des paumés, mais en utilisant le mot paumé dans un sens métaphorique, c'est-à-dire des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans la société, ce n'est pas forcément des exclus sociaux, etc. Mais dans cette réflexion sur la règle, il y a une espèce d'obsession de la transparence. C'est-à-dire que les rapports humains doivent être entièrement codés, explicites, doivent être explicitement codés. Et c'est ça les sociétés utopiques, puisqu'une société utopique, par définition, elle n'a aucun ancrage naturel. Donc tout doit être transformé en règlement. Les grandes utopies, c'est en permanence, c'est le règlement de l'association, quoi. Bon. Parce que tout doit être inventé, réinventé, y compris la sexualité, par ces règles qui, plutôt que de mariage, sont des règles de à quelles conditions puis-je coucher avec une fille. Hein. Voilà. Et les conditions doivent être explicites, partagées par tout le groupe. Et celui qui ne respecte pas la règle casse le groupe. Donc il faut le tuer. Il est menaçant. Je crois que c'est plutôt par là. Alors, qu'on appelle ça religion, hein, pourquoi pas, hein. Et on voit très bien comment une religion peut servir de cadre à précisément cette obsession de la norme. Hein. Et là, il y aurait des comparaisons à faire, mais qui ont été faites, hein, avec le monastère. Ça, Sade adorait faire des orgies dans un monastère. Hein, enfin, l'histoire des vieux moines lubriques qui tournent la règle monastique en règle de jouissance du groupe, bon, c'est là aussi, c'est très sadien. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est ça, c'est de la... on fait de la contre-religion, c'est-à-dire, dans le fond, on prend une forme du religieux, hein, mais qui, dans le fond, est sacrilège. Alors, évidemment, c'est pas comme ça que verraient les choses. Hein. Donc, il y a bien un rapport au religieux, il y a bien un rapport à une religion précise qui est l'islam, mais c'est la question de savoir est-ce qu'ils ont la foi, pas la foi, ça se pose pas, quoi, à mon avis. C'est pas la question.
Je propose qu'on collecte toutes les questions, comme ça vous aurez à peu près un quart d'heure pour répondre. Olivier Romain.
Très brièvement, un remerciement et une question. Un remerciement, parce que je ne pourrais pas être là à la prochaine séance des ateliers, je m'excuse, mais donc je remercie les organisateurs, vous passez le mot aux autres des ateliers, surtout je crois qu'il y a une transmission l'année prochaine aussi, oui. Donc merci doublement. Et une question très brève à Olivier Roy, je me posais la question du public, de la violence que vous évoquez, en fait, quel est-il, est-ce qu'il y a une formalisation du public, parce que lorsque ça décrit, il vise un public, c'est un public de Kantien en quelque sorte, enfin, c'est un public cultivé, dont il démontre la possibilité d'inverser toutes les hiérarchies morales. Mais c'est du kantisme appliqué avec selon ce schéma d'inversion. Enfin, l'article de Lacan là-dessus est quand même assez, assez périlleux, mais peut-être qu'il vise juste. Et est-ce que là, il y a un public qui est identifié comme tel, sachant que le support Internet brouille évidemment tous les codes? Est-ce que ce n'est pas une violence sans public quand même, enfin, au bout du compte?
Moi, je pense que ça... Oui, d'accord,
on va collecter. Paola.
Oui, ça va un peu dans la même ligne. C'était la question, parler à plusieurs reprises de super-héros négatifs et pas de martyrs au même moment. Donc, je voulais un peu savoir, parce qu'on est devant cette martyrologie nouvelle avec des nouveaux instruments, et la reine du martyr, c'est la reine du web. C'est dans le web, par exemple, cette question des attentats suicides transmis dans le web. On pourrait dire peut-être que la martyrologie a marché selon le nombre de fois que la vidéo YouTube a été regardée, par exemple le nombre de likes dans une page Facebook d'un martyr. Donc cette question de la construction, parce que ça m'intéresse pour mon propre travail sur cette martyrologie contemporaine, un peu savoir ce que vous pensez sur ça, parce que je pense que la piste des sectes elle est très juste, justement, dans la construction d'un martyr, car cela redéfinit l'essence de la mort, en fait, et de la mort violente. Donc, je vais demander un peu sur ça.
Giulio, puis Pierre Manant, et...
Oui, j'avais juste, en fait, formulé, vous venez de faire allusion, je vais un peu reformuler peut-être la question de Jean-Vincent. Ma question porte plutôt, parce que vous venez de nous soumettre, si j'ai bien compris, un travail en cours, donc... En fait, sur votre démarche, sur ce qu'on peut dire de votre régime de l'interrogation, je partage tout à fait d'habitude la question des soucis de la complexité des motivations. Pourquoi je me suis posé la question si on n'était pas trop complexe, s'il y avait, si vous voulez, trop d'éléments de la figure, parce que si, finalement, ma question vise à comprendre si j'ai bien compris, vous voulez donner, si j'ai bien compris, donc, leur poids, leur importance à plusieurs éléments. Et en tout cas, vous donnez, je crois, comment dire, vous attribuez un certain rôle à la culture de la violence diffuse, à la diffusion de la violence diffuse, et donc à la limite, ce qui conduirait, comme conséquence pratique plutôt, à renouveler la critique des spectacles ou la question. Mais après, vous faites aussi allusion à des motifs un peu plus politiques, hein, s'il ne joue pas un grand rôle dans votre démarche. Donc, la question que je me pose pour essayer de réduire cette complexité de motivation, je me demande si on ne peut pas finalement se poser la question, quelles justifications sont-elles disponibles pour tous ces parcours personnels, ces motivations d'adhésion auxquelles vous faites justement référence, qu'il faut voir dans leur spécificité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un paradigme qui est très répandu, c'est-à-dire la volonté d'articuler les moyens modernes et la loi ancestrale. Après tout, chaque loi ancienne retrouve sa modernité dans chaque époque. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne peut pas justement sortir de la question sentimentale, comme vous venez de faire allusion, et se poser la question, quel paradigme des sociétés, quel paradigme d'humanité, quel paradigme des codes de mœurs, quels paradigmes sont disponibles pour ces gens qui décident d'entrer dans ces communautés, d'entrer dans ces... Et alors peut-être là on sort un peu de l'abstraction de l'action de la violence diffuse, parce que c'est, comment dire, c'est un fait aussi caricatural qu'évident, que nous voilà, que j'ai beaucoup d'amis qui jouent... des videogames, des jeux, et pourtant, dans notre cadre, disons, théologico-politique, par exemple, nous ne sommes pas très attirés par notre cadre, dans nos situations européennes, la plupart de nous ne sommes pas attirés par cette violence diffuse, donc voilà.
Donc je laisse la parole à Pierre Manant, Johan Ockant, Luc Foineau, et après je me permets de rendre la parole à Olivier Roy, parce que le temps presse.
J'ai juste une question, une demande d'information complémentaire. Les conversions, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour évaluer ce qu'elles sont devenues lorsqu'ils reviennent? Est-ce qu'il y a des phénomènes de déconversion? Est-ce qu'on peut, est-ce que l'expérience en Syrie ou en Irak a produit chez certains de ceux qui ont fait le voyage une désillusion telle que l'on peut dire que c'est une déconversion?
D'abord, je suis content de vous rencontrer parce que ça fait à peu près 20 ans que je vous suis dans la plupart des institutions où vous exercez. Je ne vous avais jamais vu et je me demandais si vous existiez réellement.
On peut faire un Skype, hein, si vous voulez.
Effectivement. Alors, je crois que la question que vous avez sur les femmes et sur les recrues féminines, parce que disons que les perspectives que vous décrivez pour les femmes ne sont pas extrêmement réjouissantes, et en même temps, on sait qu'il y a un certain nombre de recrues parmi les femmes, que l'outil d'Internet alors, est un des outils de prédilection pour ces filières de recrutement. Or, cet outil permet aussi sans doute de vérifier que ces perspectives ne sont pas forcément florissantes pour les femmes là-bas. Qu'est-ce qui peut être les figures attractives pour les femmes converties ou non dans ce type de parcours? La figure du super-héros négatif étant peut-être pas dominante de ce point de vue-là. Et donc, est-ce que c'est celle du martyr ou d'autres figures qui sont là, ou celle de la tromperie et de la déception?
Oui, l'une des choses que vous avez bien mise en évidence, c'est ce rapport effectivement perverti à la mortalité, à la mort dans ce groupe. Et donc je voulais savoir si vous aviez en fait d'autres éléments pour nous aider à comprendre la chose qui finalement est la plus choquante, enfin quand on regarde ces vidéos, ce type de rapport à la mort finalement, de société suicidaire. Est-ce que c'est lié au mode de fonctionnement, lié à l'arrêt que vous avez défini? Est-ce que vous avez d'autres hypothèses?
La parole est à vous.
Alors oui, je mélange un petit peu les réponses. Il s'adresse à un public de jeunes, c'est clair. Et dans ce public de jeunes, il y a une petite frange, mais très minime, mais très visible, qui les rejoint. Donc si vous voulez, les conversions montent justement, ce n'est pas un problème de référentiel culturel. Ils mettent un produit sur le marché, qui peut être lu, perçu, apprécié, etc., même quand on n'est pas du tout dans une tradition par exemple, tradition culturelle islamique, etc. C'est justement leur grande force. Ils ont déculturalisé, en quelque sorte, les concepts de djihad et de charia, et qui ne sont pas du tout vendus dans le cadre de la vision d'un retour aux ancêtres, une société traditionnelle, etc. Au contraire. C'est un mouvement de gêne. C'est-à-dire que les parents ont tort. La toute-puissance du gêne suppose que son père n'est rien. Et ça, je crois que c'est important. Et là, il y a quelque chose qu'on retrouve en commun avec la bande Abadère, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui... Il n'y a pas eu de transmission générationnelle. Voilà, vous savez qu'un des grands moteurs de la bande Abadère, c'était de dire « nos parents étaient nazis, ou au moins complices. » Bon, ils nous ont rien dit. Voilà. Donc, fermez vos gueules, les parents, vous avez toujours fermé vos gueules. Donc maintenant, c'est nous, les purs, hein, parce que vous êtes des salauds. Bon. Et il y a un petit truc comme ça chez ces jeunes. Hein. Soit les parents ne sont pas convertis, voilà, c'est dommage, on prie pour leur conversion, mais c'est le jeune qui va dire à sa mère qu'elle doit se convertir. Hein. Dans les vidéos, on voit ça. Hein. « Maman, je souhaite que tu te convertisses, etc. » Bon, après ma mort, comme martyr, si tu vas me rejoindre au paradis, convertis-toi d'abord, etc. Ce sont souvent des jeunes seconde génération où il n'y a pas eu de transmission. Le nombre de frangins sans parents est assez important dans ces mouvements-là. Et on reconstitue une fratrie. Hein, jamais, ce ne sont pas du tout des mouvements où on se retrouve des pères, accent grave. C'est des mouvements où on est entre pères, P-A-I-R-E. Hein, et on reconstitue, on se donne à soi-même les règles de fondation de la famille, de mariage en particulier. Bon, maintenant qu'il y a des enfants, ça va changer des choses. Hein. Et là, je tombe sur la question de des retours des convertis, etc. On n'a pas encore de cas, enfin, à ma connaissance, d'un converti qui s'est déconverti. Hein. On a des cas de jeunes qui reviennent en disant « mais c'est pas ce que je croyais hein. ». Bon, ça, on en a pas mal. Hein. Mais ils reviennent la queue entre les jambes et profil bas. Et je crois qu'il faudra encore un petit peu de temps avant qu'il y ait une réflexion là-dessus. Mais vous savez, quand on voit les anciens de la Révolution culturelle, les anciens gauchistes européens, les anciens Khmer Rouges, ils ont renoncé aux armes, mais où il est le bouquin où le gars explique vraiment quel a été son rapport à la violence, hein ? Chez mes anciens petits copains de la GP qui sont devenus romanciers, où il est le vrai roman sur 68 ? Il n'est pas écrit. Hein ? Bon, c'est quand même marrant. Bon, il y a la révolution culturelle, vous avez des mémoires, etc. Il n'y a pas un type, bon, ça impliquait des millions d'étudiants, la révolution culturelle chinoise. À ma connaissance, il n'y en a pas un qui a fait le vrai bouquin. Voilà ce qu'on a fait. Hein. On a des demandes d'excuses, on a fait des bêtises. On a, oui, c'est plus compliqué que ça. Hein. Et puis, en France, on a, ah oui, mais nous, on s'est arrêté avant le terrorisme, nous sommes des héros. Nous sommes des héros parce qu'on n'a tué personne. Bon, ou alors on ne l'a pas fait exprès. Donc, non, y a un trou, hein, si je peux dire. C'est très difficile de penser sa propre violence. Hein, hein. Oui, pour en venir, bon, le web est effectivement la reine. C'est là, c'est là leur public. Hein. C'est là que ça se passe. Alors, on a tous les problèmes après de comment étudier un phénomène sur le web, mais bien sûr, c'est là que ça se passe. Tous les jeunes qui sont dans la culture, qui jouent aux jeux vidéo, ne sont pas de potentiels djihadistes, bien entendu. Hein. Mais quand ils passent au djihadisme, quand il y en a 0,01% qui passent au djihadisme, ils passent au djihadisme sur les structures de cette culture de la violence. Et donc, cette culture de la violence, elle est très importante. Elle reste purement virtuelle pour, évidemment, l'immense majorité des gens, mais à un moment donné, elle n'est plus virtuelle. Mais là, le schéma est là. Alors, en même temps, bon, on a cet ordre individuel, si je peux dire, et puis, il y a un ordre politique, oui, bien sûr. Hein. Ils n'agissent pas dans un monde où on est tous dans le virtuel. Quand on fait sauter le World Trade Center, on peut être dans un énorme jeu vidéo, sauf que l'occupation de l'Afghanistan par l'armée américaine, ce n'est pas un jeu vidéo. Là, on est dans l'ordre du politique. Hein. De même que la restructuration actuelle du Moyen-Orient, des frontières, des rapports de force, etc., c'est du politique. Hein. Bon, mais là, on peut dire aussi, bon, les anarchistes à la fin du 19e, qui étaient eux aussi dans le virtuel, s'inscrivaient aussi dans les transformations sociales et politiques qu'ils ne maîtrisaient absolument pas, qu'ils vivaient dans l'ordre du fantasme. Hein. Les croisés pouvaient partir délivrer le tombeau du Christ dans un projet de réalisation de soi, mais les croisades sont un événement géostratégique. Bon, et alors pour les femmes, et ben on a le vieux problème hein, qui est la servitude volontaire, parce qu'elles savent très très bien comment elles vont vivre si elles vont en Syrie. Elles le savent. Hein. Moi, j'avais discuté déjà, mais il y a 30 ans de ça, avec des jeunes Françaises de bonne famille, pas des paumées du tout, qui se convertissaient à l'islam. Bon. Et alors, le groupe dans lequel elles étaient, les gars leur disaient très clairement ce qui allait se passer. « Ma sœur, tu ne peux pas rester célibataire, il faut que tu épouses un frère. Mais malheureusement, ici, dans l'environnement, il n'y a pas de bon frère. » Mais on t'a trouvé un frère afghan qui habite en Arabie Saoudite, etc. Et alors, c'est un très bon musulman. Et voilà, il est d'accord, etc. Bon, et la fille l'épousait. Qu'est-ce qui se passait après? Je n'ai plus jamais revu. Hein. Et là, alors vous avez tout ce discours. Il faut lire le Soldat de lumière de Malika Haroud. Malika Haroud était la femme de celui qui a assassiné Massoud et qui s'est fait tuer, qui fait sauter sur Massoud. Et alors elle, c'est... mon mari, c'est qu'elle est héros, il était super. La preuve, d'ailleurs, il a donné sa vie pour l'islam. Et puis, alors, c'était un gars très, très bien. Il m'a emmené en Afghanistan. Il ne m'a pas laissé dans mon appartement de banlieue. Il m'a emmené en Afghanistan. Et puis, il ne voulait jamais que je recouse les boutons de sa chemise. Il tenait absolument à coudre lui-même les boutons de sa chemise. Bon. Mais à part ça, la fille est enfermée dans la maison, ne sortait qu'en burqa, etc. Mais elle était mariée à un féministe. Enfin, si on lit son livre, quoi. Donc, voilà, là, quand elles s'échangent, là, celles qui sont en Syrie expliquent à celles qui vont venir comment on vit en Syrie, etc. Tu sais, tu seras soumise, tu seras voilée. Et la fille dit, oui, je sais, je vais être une bonne femme musulmane, etc. Mais alors après, il y a un truc. Au fait, est-ce qu'il y a des couches est-ce qu'il y a des couches pour les bébés en Syrie? Ah non, il n'y a pas de couches. Ah, ça, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas si je vais venir. Bon, texto, hein, c'est un vrai dialogue. Bon. Là, on se dit, bon, c'est pareil. Mais les filles savent très bien. Puis ce n'est pas des idiotes. Hein. C'est comme les filles qui sont en burqa. Je veux dire, bon, un tiers des filles en burqa sont des diplômées bachelières. Hein.
il reste la question, je pense, la réponse à la question de Giulio sur les paradigmes. Non, c'est bon. Je vais peut-être greffer sur cette question juste une petite notion. On entend beaucoup parler du nihilisme de Daesh, du nihilisme des individus de Daesh. Quel commentaire vous faites là-dessus?
Alors, je pense qu'Al-Qaïda est une organisation nihiliste par définition. Daesh, c'est plus complexe parce qu'ils ont un projet utopique. Hein. Donc il y a des gens qui rejoignent Daesh, pas par nihilisme. Mais comme ce projet est utopique et ne peut rester qu'utopique, je veux dire, le nihilisme est au bout de la route. Hein. Ça ne peut que mal se terminer. Hein. Comment exactement, ça, j'en sais rien. Moi, je vois un phénomène de vêpre sicilienne, c'est-à-dire que un beau matin, une révolte de la population locale. Quoi. C'est-à-dire, quand le rapport de force va basculer, il y aura un massacre. Hein. Comme il y a eu en Afghanistan, hein, où les volontaires étrangers se sont fait massacrer dans la rue de Kaboul par les locaux, qu'on avait marre qu'ils se vengeaient d'années de frustration.
Est-ce que vous aurez encore des questions avant de clore notre session? Ben, je profite des dernières 2-3 minutes pour vous remercier, Olivier, d'être venu, de vous rendre à l'exercice de la spontanéité de l'analyse par rapport à un sujet qui est tellement d'actualité. Ce n'est pas évident. Et nous espérons lire peut-être bientôt quelque chose sur cette question. En vous remerciant d'être ici, et il faut libérer la salle malheureusement parce qu'il y a un événement où c'est ce sera pour le départ d'une collègue. Donc voilà, merci encore de votre présence et à la prochaine fois. Merci.